Un livre des livres, le podcast qui va vous faire aimer la littérature sous toutes ses formes. Lecteur, autrice, auteur, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un livre des livres, Un livre des livres, le petit podcast consacré à l'actualité littéraire. Pour ce numéro, on va se consacrer au 9e art, la bande dessinée, qui a, en ce début d'année, célébré, comme il se doit, comme il se convient, les 50 ans du Festival d'Angoulême. À cette occasion, beaucoup d'éditeurs étaient là, présentant leurs dernières nouveautés, et il y en a un paquet. Il a été très difficile de faire une petite sélection pour ce podcast, aussi je ne peux pas être exhaustive, je m'excuse d'avance auprès de celles et ceux pour qui j'aurais oublié leur titre fétiche de ce début d'année. Ne soyez pas déçus, nous allons essayer d'être quand même assez variés au niveau des thèmes, au niveau des styles, au niveau des genres, et c'est parti tout de suite avec mon premier coup de cœur de ce premier trimestre de l'année 2023.
Vous les femmes, vous les charmez.
Pardon Rulio, mais bien sûr on va parler de femmes, mais pas comme tu le faisais. On va parler de femmes qui, elles, sont toujours prêtes. C'est le titre du premier spin-off du petit théâtre des opérations en bande dessinée, signé cette fois-ci Virginie Augustin et Julien Hervieux, aka l'odieux connard, aux éditions Fluide Glacial. Je disais donc cette fois-ci, vu que l'odieux connard abandonne Monsieur le Chien le temps d'un album, visiblement il n'avait plus assez de granola pour l'alimenter, au profit d'une nouvelle dessinatrice sur ce projet du petit théâtre des opérations qui, comme vous le savez peut-être, consiste à dévoiler bon nombre d'anecdotes sur les guerres, et en particulier les guerres mondiales. Ce spin-off s'inscrit dans la démarche de la série principale, à ceci près qu'il n'évoque uniquement que des portraits féminins. L'album n'est pas encore sorti au moment où j'enregistre, puisqu'il est prévu pour le 8 mars. La maison d'édition Fluide Glacial Audi a fait ce choix délibérément pour commémorer à sa façon la journée internationale des femmes. L'idée est amusante, l'idée est fun et l'idée est surtout pertinente. L'album comporte 8 chapitres, 7 portraits de femmes et un portrait plus global sur une thématique liée à la féminité. Parmi ces portraits, vous retrouverez Marie Marpin, Nancy Wake, Milunka Savic, Octavie Delacour, Yoshiko Kawashima, Marie Curie, Marie Depage, et la thématique autour de l'histoire de sorcières. Comme à l'accoutumée pour la série Le Petit Théâtre des Opérations version bande dessinée, nous avons le droit à des portraits sur quelques pages avec beaucoup d'humour, parfois cinglant, parfois parodique, mais qui fait toujours mouche, et c'est là qu'on retrouve la patte de l'odieux connard, et chaque chapitre va se terminer par une planche qui présente avec des photos, le portrait un peu plus réel de la personnalité dont on vient lire les planches. Le processus est connu des fans de la série principale, et pour ceux qui vont la découvrir, vous verrez que l'album est vraiment super sympathique, ludique, on passe un moment de lecture qui est vraiment drôle, et duquel on ressort grandi parce que nous avons appris énormément et de belles manières. À nouveau, le postulat de départ, qui est de faire connaître au grand public des personnalités ayant existé et ayant eu un rôle important dans des conflits, est rempli haut la main. Choisir une dessinatrice est du coup ce qu'il y avait de plus judicieux pour rester dans cette envie de commémorer cette journée dédiée aux droits des femmes. Virginie Augustin est une artiste talentueuse qui a collaboré avec les studios Disney sur les films d'animation Hercule et Tarzan, mais également pour des séries comme Witch ou encore Chasseurs de Dragons qui ont été diffusées sur France Télévisions. En plus de travailler sur de l'animation, que ce soit pour le petit écran ou le grand écran, avec encore Corto Maltese, elle s'est vue proposer une collaboration sur Alim le Tanneur par Wilfried Dupanneau. Elle décline, faute de temps disponible, et une fois son travail sur Corto Maltese terminé, soit 2 ans après la proposition, elle va le contacter en retour et qui a toujours ce projet à lui proposer. En plus d'être une spécialiste de l'animation, c'est une artiste qui travaille énormément sur la bande dessinée. Si vous êtes bédéphile, le nom vous dit forcément quelque chose, si vous avez suivi cette excellente série qui s'appelle 40 éléphants, ou si vous êtes des lecteurs de la caste des Métabarons. Graphiquement, le style change par rapport à ce que Monsieur le Chien peut proposer, mais il colle très bien à l'ambiance humoristique. Elle arrive à déformer les tronches des personnages pour les rendre un peu plus cocasses ou un peu plus drôles, tout en leur donnant quand même un style réaliste. Prenons l'exemple du chapitre sur Yoshiko Kawashima. Celui-ci commence par quelques cases avec son trait habituel, en couleur, puis elle va basculer sur un style très manga. Donc le style change, c'est plutôt marrant, elle s'en explique très rapidement. Elle arrive donc à adapter son trait en utilisant toutes les techniques et ficelles qu'elle a apprises sur l'animation, mais également sur ses autres travaux autour de la bande dessinée, pour coller à chaque chapitre proposé par son scénariste. Le binôme fonctionne parfaitement, l'album est vraiment super, super drôle, super enrichissant. C'est une excellente idée de la part de l'Odieux Connard, c'est une excellente idée de la part de Fluide Glacial de nous offrir ce spin-off du petit théâtre des opérations consacré aux femmes, car on a tendance à trop oublier, scolairement parlant, et également malheureusement au niveau de l'histoire universitaire, on oublie le rôle des femmes, on minimise encore trop le rôle des femmes au cours des différents conflits. C'est bien dommage, cet album du petit théâtre des opérations consacré aux femmes va peut-être donner l'envie aux lecteurs les plus curieux d'en savoir davantage sur ces personnes qui ont eu un rôle très très important. Changement de registre pour le deuxième album, album à paraître pour le 29 mars prochain, Mon Papy Titanic, tome 1, aux éditions Bambou. Un album jeunesse fort intéressant parce qu'il parle vraiment aux enfants et qui peut aussi parler aux parents. Dans cette histoire, nous suivons les aventures de la petite Rose dont les parents n'arrêtent pas de se disputer. La famille est en train d'exploser, le couple est sur la voie de la séparation. La petite fille n'en peut plus, tant et si bien qu'elle fugue chez son grand-père. Et de là va naître une belle histoire d'amour entre un petit enfant et son aïeul. C'est teinté d'humour, c'est bien vu aussi de la part des deux auteurs parce que nous sommes à la fois sur un petit drame familial et également sur une constitution de liens. Donc une belle histoire d'amour, c'est vraiment très bien fait avec beaucoup de petites blagues, ce qui va vraiment plaire aux enfants au passage. Alors le titre, bien sûr, fait référence au célèbre navire qui a coulé, mais surtout référence au film de James Cameron dont on fête l'anniversaire cette année et dont je vous ferai grâce de la puissance des cordes vocales de Céline Dion au passage. Tabernacle, vous êtes sacrément susceptible. Le personnage du grand-père est vraiment succulent. Alors pour pousser la blague jusqu'au bout, Falzar dans son scénario nomme le monsieur, non, monsieur marin, hein. Forcément, quand on est fan du Titanic, hein, marin, c'est plutôt marrant. C'est un veuf, il vit tout seul depuis le décès de sa femme, non loin de la maison des parents de Rose d'ailleurs, et il entretient une passion pour le film, pour la maquette du Titanic. C'est un énorme fan, il consacre tout son temps libre à ça. Il accepte de veiller sur sa petite fille, le temps que Céline et son compagnon recollent les morceaux. Toute une année scolaire va passer comme ça, ce qui va être l'occasion de petites péripéties. Donc l'album n'est pas un album de gags classiques ou avec une planche, un gag. On a vraiment une histoire filée, séquencée, en plusieurs petites tranches de vie, certaines drôles, d'autres touchantes. L'alternance fait vraiment le charme de cet album-là. Alors bien sûr, les tandems grands-parents-enfants sont source de très bonnes séries, il y en a beaucoup dans la bande dessinée franco-belge, et Mon Papy Titanic s'inscrit en droite ligne dans cette tradition. D'autant plus qu'ici, comme je vous l'évoquais, l'auteur donne à la fois des moments amusants et franchement drôles, mais il donne aussi une profondeur émotionnelle indéniable. N'oubliez pas quand même que le point de départ de cet album est quand même un petit peu triste. Une famille qui explose, c'est jamais joyeux joyeux. Et la manière dont il parvient à doser les instants comiques et les instants tristes est vraiment bien mené. Ça permet aussi d'évoquer des thèmes comme la vie avec le passage des chatons, la mort avec la manière dont Monsieur Marin évoque sa femme, la nostalgie du temps passé qui est très très présente, il y a des moments qui sont vraiment touchants là-dessus, la famille, l'addiction aux écrans, bref, il y a énormément de thématiques actuelles qui sont traitées à hauteur d'enfant. C'est important de le souligner parce que c'est vraiment un album qui s'adresse à eux au tout départ, et il y a quelque chose qu'on retrouve dans cet album qui m'a fait penser à ce que Nob est capable de faire dans les siens, c'est-à-dire qu'un discours à la fois accessible à l'enfant, mais aussi aux parents qui le lit, c'est sacrément bien vu. Concernant l'aspect graphique signé Marco Polo, Là aussi, on voit la puissance des jeux de mots dans le choix des pseudonymes, comme me confiait Julien Hervieux, dont j'évoquais le nom tout à l'heure, enfin en tout cas le pseudonyme d'Audio Connard. Il faut vraiment bien choisir son pseudonyme. Là, je pense qu'ici, dans ce cas, c'est bien fait exprès pour le petit jeu de mots rigolo. Ben, les dessins de Marco, ils contribuent à un effet de douceur. Et ça, c'est vraiment important dans l'album, cet effet de douceur que s'apportent mutuellement les deux personnages principaux. Leurs petites bouilles sont vraiment adorables en plus, donc les personnages sont pas en super déformade, mais sont pas en taille réelle non plus, c'est un mélange des deux. Alors cet artiste qui est très très rodé à l'exercice de la bande dessinée humoristique, hein, si vous cherchez sur internet, vous allez voir qu'il y a une bibliographie super longue dans ce domaine-là, et il adapte son trait à chaque fois pour les lecteurs ciblés par l'album. Ici, on a vraiment un trait, un design qui se rapproche des standards du genre de la BD jeunesse, avec un choix de coloris qui apporte, là encore, les tonalités qui conviennent à chaque moment de l'album et qu'on retrouve aussi dans le domaine de la BD jeunesse. Donc pour moi, c'est un beau coup de cœur, c'est un très très bon premier album. Il plante le décor, il met le cadre, tout en offrant un scénario tendre et drôle en même temps. Donc je vous rappelle le titre, Mon Papy Titanic, et c'est chez Bambou. On va terminer ce tour de la BD franco-belge avec un autre coup de cœur pour le tome 1 d'une nouvelle série parue chez Glénat en ce début d'année, signée Nathalie Ponsard, Kutnech, Michael Bossan, Ogrefia et Aurélien Morinière, Visage, ce que nous sommes, tome 1, derrière les lignes ennemies. Chose assez originale pour être soulignée, les éditions Glénat vont sortir les 4 tomes qui composent cette série tout au long de l'année 2023. Cette performance assez audacieuse est à la hauteur du contenu de cette série. Alors si vous êtes comme moi et vous êtes passionné d'histoire, et ben vous êtes fait piéger par la magnifique couverture signée Aurélien Morinière. On voit un joli poilu, le regard porté vers le lointain, et puis en arrière-plan une belle tranchée légèrement suggéré, c'est extrêmement magnifique, et quand on lit le quatrième de couverture, et ben on se rend compte que non, que c'est beaucoup plus profond. Nous sommes alors dans ce premier tome, on est en 1914, Louis Quebras, qui est un jeune breton passionné, part pour défendre la France. Au même moment, une jeune allemande téméraire, Lise Lotruf, arrive sur le front adverse. Cette photographe s'est engagée comme infirmière dans la Croix-Rouge. Rien de prédisposé, Louis, l'immortel, et Liselotte, l'ange des tranchées, à se rencontrer. Pourtant, de leur impossible histoire d'amour, dans le No Man's Land, naîtra la saga tourmentée d'une famille déchirée sur 3 générations. Et c'est ça, en fait, qui fait la méga originalité de cette série, pour laquelle j'ai un immense coup de cœur. Dès le départ, je suis sûr que les autres tomes ne vont pas me décevoir, vu qu'on est sur une BD qui a pour trame de fond, non pas l'histoire, mais la quête de l'identité. Et ça, c'est vachement balèze, parce que le contexte historique, il est très bon, ça c'est indéniable. D'ailleurs, les auteurs ont été sollicités pour réaliser des panneaux thématiques pour les musées, pour également à destination des scolaires. C'est vraiment passionnant, et ils sont tous passionnés, parce que cet album et cette série, qui est composée à 3 personnes, donc à 6 mains, elle est vraiment très très particulière. C'est Michael Bossang Ogrefia qui est à l'origine, en fait, un petit peu, de ce concept, c'est-à-dire qu'il enquête d'identité par rapport à sa propre histoire, ce qui a plu beaucoup à l'autre scénariste. Une fois que le scénario était lancé, que les thématiques étaient trouvées, il a fallu mettre la main sur la personne qui allait pouvoir porter tout cela au niveau du dessin. Nathalie m'a confié lors d'une dédicace au Festival d'Angoulême qu'elle est tombée complètement raide, dingue, des tableaux d'Aurélien Morinière, et de ce fait, il a été contacté. Et bien, il faut dire que l'alchimie prend superbement. Quand on regarde l'album, on voit bien qu'il y a une touche qui est au-delà du trait de la bande dessinée classique, qui est liée à celle de la peinture, même si certains peut-être diraient que le trait est parfois académique, mais pas tant que ça. Pas tant que ça parce qu'on a quand même des compositions de planches. Si je prends la planche 32-33 qui est sur une double page magnifique, qui met en lien les journaux allemands, français, les tranchées, les lieux de religion, c'est extrêmement graphiquement recherché. On a des planches qui souvent jouent le jeu de la double page, soit de manière en case unique ou avec une composition assez amusante parce que ça fait le tour des deux pages, un peu comme au jeu de loi, c'est plutôt fun. Et après le gaufrier classique, donc on a vraiment vraiment de tout au niveau de la recherche graphique. L'intrigue, elle prend au trip tout de suite. Alors heureusement que les autres tomes vont sortir le long de l'année, parce que j'aurais eu du mal, moi personnellement, à attendre 4-5 ans, histoire que toute la série sorte. Même si je pense que le gros kiff, ça doit être de lire les 4 tomes d'affilée, parce que le tome 1, une fois qu'on est pris dedans, on tourne les pages, on arrive déjà à la fin. Alors ce qui fait qu'au niveau de la création scénaristique et de la mise en place dans les planches, on a vraiment affaire à une BD qui serait l'équivalent de ce qu'on appelle dans les romans le patch-turner. Ce qui est assez saisissant, c'est pas souvent qu'on a ça. Et on la reprend, on la relit, on essaie de regarder s'il y a des détails qui nous ont échappé, tellement c'est bien fait. fait. Alors, au niveau des détails qui nous auront échappé, ben, il n'y en a pas des masses, hein, parce que le trait réaliste est vraiment subjugant. Il y a une grosse recherche sur les uniformes des soldats, quel que soit leur bataillon, sur la tirerie, qui correspond vraiment à ce qu'il y avait en 1914. Donc là, il n'y a aucune erreur historique. La précision est carrément hallucinante. C'est très très bien recherché. Donc une histoire d'amour improbable entre une Allemande et un soldat français, qui va être à l'origine du coup d'une recherche d'identité par leurs descendants. Alors par rapport à quelque chose qui se passe dans le tome 1 et que je ne vais pas divulgâcher pour vous laisser le plaisir de découvrir cette magnifique bande dessinée, vu le cliffhanger qu'on a à la fin. Alors à la fin de l'album, on a également un petit chapitre, un article, titré « Nous sommes l'histoire de notre vie » où nous avons énormément d'informations pour compléter la lecture qu'on vient de faire dans l'album, et c'est super bien vu parce que là c'est complet, c'est exhaustif, tout en étant lisible. C'est pas un gros documentaire imbuvable sur la Première Guerre mondiale, même si bien sûr il y a des historiens qui écrivent avec beaucoup de talent sur la Première Guerre mondiale. Je vous renvoie à la biographie de Nicolas Offenstadt par exemple. Mais là ici, il y a juste ce qu'il faut. Pas trop pour dégoûter les jeunes lecteurs ou les lecteurs moins fans d'histoire, et assez pour contenter tout le monde, ce qui est vraiment super bien fait. Et ça, ce travail, c'est celui de Nathalie Ponsard-Gocknecht et de Michael Bossang-Ogriafa, qui signent tous les deux ce dossier. Un album superbe, un album passionnant. Honnêtement, moi, ça m'a fait penser, si Ken Follett devrait faire une BD, ce serait celle-ci, en fait. Je sais pas si vous connaissez cet auteur anglais qui fait des fresques hallucinantes sur plus de 800 000 pages. Sa saga Le Siècle qui était impressionnante. Bah là, ça m'a fait la même sensation en tant que lecteur. On a une bande dessinée qui est aussi passionnante que ce que peut faire ce romancier, qui est précise historiquement, mais qui amène à se poser la question sur les liens du sang, la famille, la quête de l'identité. C'est super bien fait, c'est magnifique. Moi, c'est mon gros coup de cœur de BD franco-belge pour cette rentrée 2023. Alors, je vous rappelle le titre, c'est « Visage, ce que nous sommes », tome 1 derrière les signes ennemis, et c'est chez Glénat. Chers amis, il est temps de se quitter, il n'est pas de bonne compagnie qui ne sait se quitter. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast de Un Livre des Livres, Un Livre des Livres, ce coup-ci consacré au roman. Thank you.